Philippe Idiarte-Garay, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour, merci.
Alors, vous êtes auteur d'un livre intitulé « Mon fils, ce petit héros » aux éditions Salvator. On va parler de la vie quotidienne de votre famille qui vit au rythme du handicap de votre fils David. Je tiens à préciser que votre ouvrage a reçu le prix du livre de l'humour de résistance en 2018 et qu'il est préfacé par Philippe Pozzo di Borgo qui a inspiré le film « Intouchable ». Alors, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots dans quelques instants, mais peut-être pour donner le ton de cette émission et pour encourager les auditeurs qui seraient trop timides ou qui n'oseraient pas intervenir en deuxième partie d'émission. Si vous le permettez, je vais lire la présentation que vous faites de vous-même en introduction de votre livre. Vous écrivez « La plupart des pages qui suivent me sont d'ailleurs venues d'un seul trait lors d'un moment rare de solitude. J'ai d'abord retraversé certains moments difficiles au point d'en chialer comme jamais, virilement bien sûr, car il ne peut en être autrement pour un Basque. » Est-ce que c'est une bonne présentation de vous ?
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce témoignage... n'en est pas un au départ, c'est un moment d'exutoire et de relecture que j'ai pu m'accorder puisque j'avais été arrêté quelques jours suite à une opération. Donc pour une fois, j'avais du temps pour moi et donc cet exercice d'écriture m'a fait un bien fou, même si ça a été parfois un peu violent parce que très très émouvant. Mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que ça a été aussi un temps de relecture à la fois spirituel, éducatif, voilà, et où l'humour et l'amour ont vite pris le dessus sur les difficultés du passé ou du moment. Voilà, donc c'était pas fait pour être publié, surtout pas. Voilà, au gré de quelques lectures que j'ai proposées à des proches. J'ai été encouragé, puis engagé par Philippe Di Borgo à publier, dans l'idée que ça puisse faire du bien à d'autres. Et comme, je reçois beaucoup, beaucoup de retours dans ce sens-là, mais j'ai accepté de continuer ce partage.
Alors, plus sérieusement, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ?
Oui. Je suis d'abord donc marié avec une belle Italienne, Agnese, depuis 25 ans. Nous avons 4 garçons, dont 2 porteurs de syndrome. Le petit dernier, donc, c'est David, que j'ai appelé mon petit héros très spontanément dès ses premiers mois. Je suis de formation à la fois théologique et éducative ou philosophique. J'ai aussi fait de la psychologie, enfin, j'ai voulu conjuguer et les sciences humaines et les sciences religieuses pour être d'abord éducateur ou animateur en pastoral et aujourd'hui engagé dans l'humanitaire. Donc j'avais beaucoup travaillé la question du handicap ou du handisport dans un but éducatif avant d'y être confronté ou d'être concerné en tant que papa par la suite.
Alors, vous avez 4 garçons et oui. Donc il y en avait 3 à la naissance de David. Comment avez-vous découvert le handicap de David ?
En plusieurs étapes, la grossesse était compliquée. De la pensée que David était polyhandicapé, il y avait un pas qu'on ne franchissait pas. On était toujours dans l'idée, dans la projection d'un enfant normalement en bonne santé. On ne s'y attendait pas tout simplement. Jusqu'au mardi soir 20h30 où le gynéco nous a appelés. Il tombait sur moi. J'étais en train de coucher Luca, notre troisième. Et là, il nous explique que de retour de vacances, il découvre que les analyses sont positives, ce qui est négatif en réalité, et qu'il nous reste 4 jours pour prendre la bonne décision. C'est l'expression qu'il a employée à plusieurs reprises. Donc là, il me parle de trisomie 21 à plusieurs reprises. jusqu'à me demander si je pense être capable ou si nous pensons être capable d'éduquer un enfant handicapé. Et là, j'ai fini par lui répondre que sa question n'avait pas de sens puisque personne ne peut présager de sa capacité, de sa manière d'éduquer ses enfants. Et puis, voilà, on prend rendez-vous dès le lendemain pour signer une décharge et confirmer notre désir et notre volonté de garder notre enfant.
Oui,
donc ça a été une première étape. Ensuite, bon, les échos étaient inquiétantes puisque David ne bougeait pas et le handicap s'est confirmé à la naissance puisque David est né inerte, ce qui est très violent parce que ça ne ressemblait pas à la vie, ça ressemblait plus à la mort. Et c'était plus que frustrant, enfin, c'était terriblement angoissant en fait de passer des heures devant David en couveuse sans qu'il y ait le moindre signe de vie de sa part. Il a fallu attendre 2 mois pour qu'il frémisse d'une paupière. C'était une forme de clin d'œil qu'il nous faisait pour nous prévenir que c'était un coquin. Les 2 mois ont été très très longs. Hein. Et puis il a fallu attendre 5 mois pour entendre sa voix sous la forme d'un éclat de rire, qui était encore plus inattendu que tout le reste. Mais pendant 5 mois, donc, on aurait adoré finalement qu'il pleure. Ça nous aurait rassuré paradoxalement qu'il pleure comme tout bébé le fait normalement à la naissance. Sauf que David est un petit héros qui a ri avant de pleurer, ce qui est assez, assez singulier. Et ce qui en dit long sur... l'interpellation qui nous adresse depuis le début pour ce qui est de d'oser la joie, d'oser le rire, d'oser la vie tout simplement, même si le handicap reste une épreuve.
Alors, dans votre livre, vous expliquez que certaines personnes ont eu du mal avec votre choix de poursuivre la grossesse et d'accueillir David.
Oui. Il s'interrogeait, comme on a pu s'interroger nous aussi, hein, sur la manière qu'auraient notamment nos 3 autres garçons de vivre, d'accepter, de supporter ce handicap avec toutes les contraintes qu'il y a pour nous et donc pour eux derrière. Nos proches se sont inquiétés pour certains, d'autres ont fait des réflexions très maladroites pour d'autres, comme les collègues de mon épouse qui me disaient que c'était fou, enfin qu'on n'avait pas le droit de garder un enfant handicapé eu égard aux autres. Dans la famille, il y a eu de la part d'une personne que je ne citerai pas au départ du rejet. N'ont pas voulu, mais parce que le handicap lui était insupportable. Donc oui, ça nous a beaucoup bousculés les uns comme les autres. Et puis c'est vrai que le handicap amène de toute façon beaucoup, beaucoup de réactions, de sentiments, de réflexions souvent difficiles. Donc ça a été un apprentissage. Accélérer pour nous, pour ce qui est de ne pas se laisser conditionner par le regard des autres et pour ce qui est de vivre le quotidien différemment, pauvrement et simplement, mais avec beaucoup plus de densité peut-être et beaucoup plus d'envie de vivre et d'aimer qu'avant.
Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots les caractéristiques du handicap de David ?
Oui, alors c'est le syndrome Prader-Willi. Le premier symptôme, c'était l'hypotonie, donc le fait qu'il soit inerte et qu'il ait beaucoup, beaucoup de temps pour tenir sa tête, pour émettre des sons. Tout a été très très lent, très très progressif, et aujourd'hui encore il est fortement pénalisé sur le plan moteur, même s'il marche, même s'il court à sa manière et même si il a gagné en autonomie. Le handicap ensuite est mental. Alors on parle de trait autistique, TRAITS. Bon, il est devenu aujourd'hui très autistique parce que le handicap mental est bien bien présent et complique sensiblement la relation aux autres. Et puis il y a des petits bonus comme l'hyperphagie, puisque David est toujours affamé, un peu moins que d'autres enfants Prader-Willi, mais c'est quand même là. Donc il ne connaît pas la satiété, ce qui dans une société de surconsommation et dans une famille de gourmands n'est pas très facile à gérer. Mais voilà, on a appris là aussi à être ferme, à être plus attentif sur tout ce qui est sain ou pas au niveau alimentaire. Donc voilà, le sucre, le sel, en tout cas les rajouts de sucre ou de sel lui sont interdits. On fait très attention à tout ça. On a fait des progrès grâce à lui, même si on reste faillible, notamment sur le chocolat ou sur les glaces. Voilà, mais il le gère plutôt bien parce que voilà, on a tous appris à mieux manger finalement.
Alors, justement, vous racontez quelques anecdotes, et notamment que votre réveil matin, finalement, c'est David en train de réclamer son petit déjeuner.
Oui, ça ne traîne pas le matin, enfin, surtout les premières années, parce que l'hyperphagie s'est un petit peu estompée avec le temps. Mais oui, pendant de longues années, dès qu'il était réveillé, il réclamait le petit déjeuner. Sans dire bonjour ni rien, enfin, c'était un impératif pour lui. Voilà. Et quand je lui ai demandé un jour ce qui était le plus important entre le petit déjeuner et papa, pour le taquiner, parce qu'on plaisante beaucoup ensemble, sa réponse a été très fine, puisqu'il m'a répondu: papa, le petit déjeuner, c'est important. Voilà, donc il a su contourner la question.
Mais il signifiait quand même qu'il avait faim et qu'il était temps de passer
Ah
à
oui.
table.
Ah oui. Et puis, enfin, ça peut jaillir de différentes manières, comme la fois où il a donné l'impression de cambrioler le pizzaiolo, parce qu'à peine entré, il a hurlé pizza, ce qui a fait sursauter tout le monde. Bon, donc après, j'ai faim moi-même de venir pour cambrioler, histoire de détendre l'atmosphère. Bon, ben voilà, c'est pas violent, c'est pas irrespectueux, c'est juste que il est très, il est parfois débordé par ses frustrations ou par ses besoins, et donc il l'exprime avec une simplicité, une force qui sont très nature chez lui.
Alors, je crois qu'une des caractéristiques de la vie quotidienne avec David, ce sont ses nombreuses questions.
Oui. Alors, c'est quelque part épuisant et déroutant parce qu'il enchaîne les questions à n'en plus finir et parfois elles n'ont pas de suite logique, en tout cas pas pour nous. Ce que je crois en comprendre, parce qu'il est difficile à ne comprendre un enfant handicapé mental, ce que je crois en comprendre depuis longtemps maintenant, c'est qu'en fait, ce n'est pas la question qui importe pour David, ni même la réponse souvent, c'est de capter l'attention, c'est d'être en relation avec. Et donc, si on le laisse faire, il est en permanence à poser des questions, sauf qu'il ne sait pas dialoguer, il ne sait pas construire une discussion comme d'autres. Il dit ce qui lui passe par la tête, quitte à répéter la même question, quitte à poser des questions évidentes, et quitte à ne pas respecter, si on le laisse faire, l'autre qui est occupé et qui peut aussi être gêné par certains types de questions. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'il vient vous poser des questions. Il vient vous poser des questions alors que vous êtes en train de travailler.
Oui, alors moins, parce que là, j'ai tenu ferme là-dessus et on fait tout notre possible pour lui apprendre les codes sociaux, puis pour lui apprendre à respecter l'autre, à ne pas parler à 2 cm du nez de l'autre et à ne pas poser n'importe quelle question à n'importe qui. Donc il a progressé à ce niveau-là. Si je lui dis que je suis occupé, pour travailler, pour téléphoner ou autre. Il sera à l'affût pas très loin hein, pour y revenir, mais il va arrêter. Enfin, il va marquer une pause.
Et est-ce qu'il lui arrive de poser des questions à des inconnus dans la rue ou si vous
Ah
allez dans un
oui.
magasin?
Tout le temps. Tout le temps. Comme la fois où il est allé donc vers des inconnus, hein, un couple en l'occurrence. Il a demandé aussitôt au jeune homme qui était avec sa copine si c'était sa maman. Et quand il a répondu que non, il a enchaîné en demandant si c'était sa grand-mère. Parce qu'il a, voilà, il n'a pas la notion de l'âge et de beaucoup de choses qui pour nous sont évidentes. Puis après, ça a tourné à la rigolade avec ce couple, parce que je m'en suis mêlé, puis qu'ils ont vu que j'étais derrière, à sourire, histoire aussi de les rassurer quelque part. Voilà. Donc oui, il est très surprenant. Et c'est parfois très gênant aussi, comme la fois où il a mis les mains sur la poitrine d'une dame relativement âgée, en lui demandant si c'était son doudou. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Bon, quand il avait 6-7 ans, c'était plus accepté. Aujourd'hui, il a 12 ans, il a un gabarit important. Il n'est pas inquiétant ou menaçant, mais je vois bien que les réactions sont moins faciles.
Oui, parce que les gens voient maintenant un adolescent et non plus un tout petit.
Oui, donc il est moins attendrissant et le comportement très décalé qu'il a passe moins bien, ou moins bien accepté. Voilà. Donc il faut qu'on continue à faire très attention à tout ça pour lui éviter des rejets, des échecs. D'autant plus qu'il prend conscience, enfin, il a pris conscience progressivement et tardivement de son handicap. Et on voit bien qu'il est très sensible à la manière qu'ont les autres de l'accueillir ou pas.
Comment vous lui avez-vous expliqué le fait qu'il était handicapé?
Ah. Ça, c'est une question que je redoutais. Du jour où il s'est trouvé en IMP, parce qu'on a encouragé autant qu'on a pu le milieu ordinaire, mais bon, le décalage était tel qu'il a fallu, au bout de quelques temps, le mettre en IMP, d'abord à mi-temps, puis à plein temps. Et donc là, aujourd'hui, il ne côtoie que des enfants handicapés sur temps scolaire. Donc la question du handicap, s'est posée davantage pour lui. Elle a émergé assez naturellement. Et donc un beau soir, il m'a demandé, Papa, c'est quoi le handicap? Bon, j'étais bien sûr occupé hein, quand il m'a posé la question, mais c'est pas grave, parce que là, il fallait y répondre. Et donc je lui ai répondu, ben, le handicap, c'est quand c'est plus compliqué ou plus difficile, voire impossible pour quelqu'un de soit de marcher, soit de parler, soit de comprendre tout ce qu'on lui dit, soit de faire du sport. Enfin, je donnais quelques exemples qui pouvaient lui parler, soit de voir, puisqu'on a, on a au moins un très bon copain qui est très malvoyant. Bon, et là, il m'a demandé, papa, moi je suis handicapé. J'ai dit, oui, tu es handicapé, c'est pour ça que c'est plus difficile pour toi de comprendre parfois ou de faire du sport. Mais c'est pour ça aussi que tu es mon petit héros. Et là, il m'a demandé si c'était embêtant le handicap. Je dis, oui, c'est embêtant, c'est difficile. Hein, donc je lui ai redit qu'il était mon petit héros. Et là, il m'a répondu, et à chaque fois que je le dis, je suis très ému, bien sûr. Papa, je suis ton petit héros et je t'aime pour la vie.
C'est effectivement très très touchant et voilà, malgré donc son handicap ou justement grâce à son handicap, je ne sais pas, c'est vous qui pourrez le préciser, il a une finesse au niveau peut-être des sentiments que les personnes dites normales n'ont pas.
Les sentiments, même à 12 ans qu'il a aujourd'hui, il les exprime avec une force, une manière tellement sensible qu'on peut difficilement y résister. D'ailleurs, bon, parfois il est donc rejeté ou désavoué dans son comportement, mais il a su aussi attirer l'affection de beaucoup de gens. Donc c'est très très inégal. Mais oui, David a un côté très pénible, très très déroutant, très très compliqué, et puis il a ce côté irrésistible aussi. Voilà, après, moi, j'ai du mal à dire que c'est grâce au handicap, parce que le handicap, en soi, je le déteste autant que j'aime David. Mais le handicap, non, je le souhaite à personne, et je ne suis pas reconnaissant du handicap de David. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un amour pour lui et pour chacun de mes garçons qui est peut-être plus fort et plus sensible encore qu'avant tout ça. Mais c'est quand même très très compliqué pour lui d'abord.
Vous parliez donc des institutions, donc David étant IMP, je crois, oui, que vous avez essayé de le maintenir le plus longtemps possible dans un milieu scolaire ordinaire.
Oui, oui, quelles on a... Oui.
Quelles sont ces relations avec les autres, avec les enfants, peut-être avec ses frères, avec ou avec les enfants à l'école?
Très limité, à dire la vérité, parce que il ne peut pas jouer comme les autres. Il y a très très peu de jeux dans lesquels David puisse rentrer. Donc c'est pour ça qu'il y avait un décalage énorme. Il était à la fois, je pense, affectionné par ses camarades de classe. Par exemple, ils étaient presque à se disputer pour être à lui donner la main avant de rentrer en classe. Mais après, sur le quotidien, on le voyait lors des anniversaires où il était invité, bah, il était toujours seul, en fait. Il se retrouvait toujours seul parce que dans sa bulle, dans ses questions, dans sa manière d'être et de jouer ou de faire, et dans cette incapacité à participer à des jeux ordinaires. Donc c'est très frustrant à ce niveau-là, très très frustrant. Et même avec d'autres enfants handicapés, c'est difficile de trouver des activités qui correspondent et qui conviennent aux uns et aux autres. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, nous, on a beaucoup, beaucoup de relations, beaucoup d'activités autour du handisport, autour du handicap ou pas. Et donc, c'est par ce biais-là aussi qu'il peut rencontrer beaucoup de monde, adultes ou enfants, et avoir avec nous des relations d'amitié. Mais le jeu, le dialogue ne peuvent pas être vécus, partagés par David comme il le voudrait lui-même.
Et avec ses frères, comment ça se passe?
Bah plutôt très bien, même si sauf quand il est en crise de frustration, de colère ou d'angoisse, là les frères sont quand même dépassés et se retranchent, hein, et nous laissent prendre le relais et intervenir. Mais pour tout le reste, ça se passe très très bien parce que ses frères comprennent. Dire autant que nous, presque, son handicap. En tout cas, il le respecte profondément. Il lui prête vraiment attention. Il essaie au maximum de l'aider, de lui faire des petits plaisirs, de jouer avec lui autant qu'on puisse le faire, de l'accompagner. Enfin, et puis, quand on leur demande, hein, comment ils vivent, leur réponse est très simple. Bah, écoute, c'est notre frère, tout simplement. Enfin, pour eux, il n'y a pas de sujet, en fait. D'autant plus qu'on a deux enfants porteurs de syndrome. Donc, cette tolérance, cette bienveillance, elle se décline à plusieurs titres. Voilà. Et finalement, par rapport à ce que j'entends de beaucoup de fratries ou de beaucoup d'autres familles, on a assez peu, sinon très très peu, de tensions, de disputes ou autres entre nos garçons. Le climat est plutôt très très serein entre eux, sauf quand David est en crise, ce qui ne dure jamais très longtemps, mais sur le moment c'est toujours assez violent.
Alors juste peut-être quelques mots, parce que vous parlez de deux de vos garçons qui sont porteurs de syndrome. De quoi souffre l'autre garçon qui est malade?
Alors Daniel a déclaré très très progressivement un syndrome dit hypothalamique. Ça s'est déclenché les mois qui ont suivi la naissance de David, donc ça a coïncidé en termes de calendrier. À l'époque, Daniel avait à peine 10 ans. Donc syndrome hypothalamique avec donc l'hypothalamus étant central, commandant à peu près toutes les fonctions du corps, amène des dérégulations ou des complications très sévères sur le plan de l'immunologie, de la respiration, de la température, des hormones et de beaucoup de choses. Et bon, il a déclaré en plus de cela récemment une leucémie et d'autres complications encore. Voilà, donc on est sur une forme de dégénérescence très 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 particulière.
Donc j'imagine beaucoup de, aussi bien pour l'un que pour l'autre, beaucoup de rendez-vous médicaux
oui.
qui viennent surcharger l'emploi du temps de la famille.
Oui, il y a une contrainte très très lourde sur ce plan-là, oui. Oui.
Philippe, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Viviane. Viviane, c'est à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas suivi le début, mais j'ai suivi la plupart, voilà, la plus grande partie de votre intervention et je tenais juste à vous féliciter pour votre courage. Et moi-même, étant la maman d'une petite fille qui est polyhandicapée, j'ai suivi votre intervention, mais j'avais juste une partie, quelque chose à rajouter. Je ne pense pas, moi, que les enfants, je les considère comme une grâce. Je sais que ça génère beaucoup de difficultés et tout, mais j'ai souvent l'impression que on devrait je ne sais même pas le terme exact que je devrais utiliser. Cet enfant, par exemple, l'exemple que vous avez donné des moments où il pose des questions déroutantes et tout. Je ne pense même pas que votre enfant, lui, même si aux yeux de la société, ils vont dire voilà, il a un handicap. Moi, je pense que c'est des enfants différents. Moi, la mienne, elle n'a pas la parole. J'aurais aimé bien qu'elle me pose des questions, même aussi déroutantes qu'il faut. Elle n'a pas la parole, elle ne marche pas. Bon, on doit l'assister pour tout, mais pourtant, il y a une sorte de pureté, d'innocence dans ces enfants. Et même le fait que votre enfant, il a cette innocence-là, il n'a pas de perversité. Du coup, toutes les questions qu'il pose à la société, ça peut les dérouter. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la société a besoin de ça, de ces êtres innocents qui n'ont pas le sens... voilà, qui ne sont pas des gens comme la plupart d'entre nous, qui avons le sens du bien et du mal, qui sommes retors. Donc, c'est déroutant pour la société, mais je pense qu'ils en ont besoin c'est pour rallumer l'humanité en eux, pour les ramener à ce qui est essentiel et ce qui est primordial. Bien que pour nous, les parents qui avons voilà, les enfants tels, ça peut poser quelquefois des problèmes parce que ça demande beaucoup d'investissement. Mais moi, je n'ai pas de questions. Moi, je tenais simplement à vous dire beaucoup de courage pour nous tous. Mais en même temps, moi, je considère tellement que c'est une grâce parce que l'ouverture d'esprit et la maturité que mon enfant m'a fait prendre, voilà, Je le souhaite à plein de personnes et vraiment, si ces gens d'enfants différents pourraient les accepter dans les écoles normaux, même si voilà, ils n'ont pas la capacité de faire les mêmes études, je pense que déjà, ça apporterait beaucoup à les enfants qu'on considère normaux de vivre avec ces enfants en quelques instants. Je pense que c'est quelque chose que le ministère devrait mettre en place parce qu'en ces moments de violence et tout, je pense que les enfants n'ont pas eu la base qu'il faut, donc il faut les ramener à l'essentiel, voilà, et donc leur faire vivre ces moments. Oui, bien sûr que nos enfants ne sont pas, ils vont pas être un instrument, mais je pense que des deux côtés, ces enfants auront à apprendre beaucoup de choses et nos enfants aussi. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait plus les mettre à l'écart, même s'ils doivent, par exemple, mon enfant, elle peut pas aller à une école normale, ça je le conçois, parce qu'elle a besoin d'assistance pour tout et voilà, elle ne comprendra pas grand chose de ce que l'on apprend aux enfants, voilà, qu'on considère normaux, mais déjà, le fait que cet enfant passe une journée avec les autres, l'empathie que ça va créer chez les autres, voilà tout ce que les autres auront à y gagner. Et autant mon enfant aussi à recevoir juste la joie des autres, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. J'aurais passé toute une journée à discuter de ça, mais ce que je tenais à vous dire, c'est merci beaucoup et même... Le titre de votre livre parle de ça, quoi. Votre enfant, c'est lui le héros, hein. C'est lui vraiment le héros. Et encore, vous devrez rajouter la grâce pour le monde, quoi.
Oui, ben je suis autant convaincu que vous de tout ce que nos enfants handicapés peuvent apporter aux autres enfants ou adultes, hein. Et d'ailleurs, voilà, je l'exprime à plusieurs reprises dans le livre. Et puis... Ben, ce handicap nous transforme aussi dans notre relation aux autres, dans notre relation à Dieu. Personnellement, j'ai découvert quelque chose de l'ordre de la gratuité, de l'amour inconditionnel, et ça m'a converti, je pense, à une relation à Dieu qui est tellement plus simple, qui est exemple de culpabilité ou de mérite. Ces mots-là n'ont plus de sens pour moi. Ce que je crois, c'est que Dieu m'aime tel que je suis, bien plus encore que je sais aimer David tel qu'il est. Donc ça, c'est très, très, très fort et ça a radicalement changé et mon approche éducative et ma vie spirituelle.
En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et merci beaucoup parce que je pense que c'est aussi... une sorte de sacrement, mais c'est peut-être nous aussi ce que voilà quelque chose de particulier que Dieu nous demande en accueillant ses enfants, voilà, de faire partager au monde, quoi. Donc moi je me bataille à tout moment, je mets jamais mon enfant à l'écart, hein. Je l'amène partout, je prends souvent le toilet de transport en commun, je vais au magasin, partout avec, parce que je considère qu'ils ont leur place, les autres ont autant à y gagner que mon enfant aussi. Donc c'est à nous, voilà. C'est à nous, mais...
Voilà.
En tout cas, je vous souhaite une bonne suite et vraiment merci beaucoup pour le témoignage.
Merci aussi.
Merci beaucoup, Viviane. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Alors, nous avons reçu un SMS de Monique. Merci beaucoup, monsieur, de nous faire partager cet admirable amour réciproque. Combien d'enfants, entre guillemets, normaux, ont dit « Papa, je t'aime pour la vie ». Merci beaucoup.
Oui, pas assez. Non, mais il y a plein de choses qu'on apprécie davantage. Je vous ai partagé que David est né inerte, ce qui est très très violent en soi. Mais je n'ai jamais su autant apprécier chacun des efforts, chacun des progrès, des mots, des gestes de mes enfants, y compris les autres. Hein. que depuis ce moment-là. Voilà, David nous a appris une meilleure bienveillance, une plus grande reconnaissance de ce que sont nos enfants, de leurs efforts. Il m'a appris à ne plus être sévère, mais à être ferme, par contre, ferme et bienveillant, mais dans la douceur, jamais dans l'agressivité, alors que j'étais quelqu'un d'un peu dur à la base. Sauf que si je le suis avec lui, je le mets en panique. Il est tellement sensible, tellement fragile, que je ne vais pas en rajouter. Il m'a appris, comme je vous le disais, quelque chose de l'ordre de la gratuité, parce que si je fais quelque chose avec lui, de l'ordre d'un bricolage ou d'un jeu, on ne va pas y arriver de toute façon. Donc c'est plus compliqué qu'autre chose. Et il a fini par en prendre conscience, puisqu'il m'a même remercié un jour de le laisser m'aider, après m'avoir dit un autre jour qu'il avait besoin de m'aider. Sauf que ce que David dit là, c'est vrai de nous tous, et c'est vrai par exemple des bénévoles que je côtoie au travail tous les jours. On a ce besoin-là, mais David ne triche pas. Voilà, il exprime avec une simplicité, une forme d'humilité qui est tellement, tellement touchante. Voilà. Donc c'est du contre-pied quasi permanent, hein, parce que moi je suis à la base quelqu'un de compétiteur, de soucieux d'être fort quelque part, ou d'être en tout cas performant. Non, je ne suis pas toujours performant, loin de là. Le handicap de David me renvoie à mes propres faiblesses, mais il y a une force qui se dégage de tout ça, dans notre relation, et aussi sans doute dans la relation à Dieu, parce que c'est quand on est faible, il paraît que qu'on devient fort. Voilà, ce que j'avais beaucoup beaucoup de mal à concevoir, mais ce que j'éprouve quelque part au quotidien, même si c'est paradoxal.
Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message particulier pour les auditeurs de Radio Maria?
Non, parce que non, ça m'a plu de pouvoir échanger un peu avec l'un ou l'autre. Je préférais répondre à vos questions que dérouler un témoignage comme je vous l'avais dit. Donc, merci d'avoir accompagné ce partage. Comme je vous l'ai dit, on est tellement conscient de nos limites face au handicap qu'on ne va pas se permettre de donner des conseils ou de donner je ne sais quel message en particulier. Enfin, chacun vit le handicap à sa manière et du mieux qu'il peut. Ce qui est sûr pour nous, c'est que ce paradoxe, il est là au quotidien. Donc on est à la fois face à nos limites, à nos échecs, à nos incapacités, et à la fois stimulé, interpellé comme jamais, pour aimer, pour être attentif, pour apprécier le quotidien, apprécier chaque mot, chaque moment. Voilà, et je pense être plus heureux qu'avant tout ça, même si c'est très très compliqué, vous l'avez compris, parce que je ne cherche pas à biaiser dans ce que je dis. Et je pense que David est tout autant heureux que notre enfant de son âge, même si par moments c'est violent ou c'est poignant, mais la plupart du temps on le voit sourire, on le voit profiter de ses journées. Et donc il y a une bonne dose de frustration, mais il y a surtout chez lui beaucoup d'amour.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Yertegaray pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui.
Merci aussi.
Et puis peut-être à bientôt.
Pourquoi pas. Bonne continuation à vous tous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.